A passenger has died. He was murdered.
Monsieur Poirot.
Un thé avec Agatha Christie.
I am Agatha Christie.
Sonia Ferchak.
Elle a écrit Le crime de l'Orient Express et Le meurtre de Roger Ackroyd. Mort sur le Nil et ils étaient 10. Des chefs-d'œuvre de la littérature policière, des chefs-d'œuvre tout court. Elle, c'est Agatha Christie, la romancière la plus lue au monde. Aujourd'hui encore, ses livres continuent de se vendre comme des petits scones, à raison de 4 millions par an. Et si vous allez à Londres, on vous conseillera sûrement d'aller voir La Souricière, The Mousetrap, un monument du théâtre signé Christie, qui fête 75 ans de représentation. Alors que dans quelques jours, nous célébrerons les 50 ans de sa disparition, je vous invite à mener l'enquête, à l'heure du thé, en explorant sa vie, son œuvre et les raisons de son incroyable succès. Bonjour, bienvenue dans un thé avec Agatha Christie.
France Inter, épisode 1, Agatha devient Christie.
Enfant timide qui n'est jamais allée à l'école, infirmière bénévole pendant les deux guerres mondiales, première anglaise à tenir debout sur un surf, spécialiste des poisons, voyageuse infatigable, divorcée et remariée à un brillant archéologue de 14 ans son cadet, rien n'arrête Agatha Christie, devenue écrivaine de tous les succès grâce à un défi lancé un jour de 1910 par sa brillante sœur aînée. Comment Agatha est devenue reine du crime ? C'est ce que nous allons élucider dans un premier temps, avant d'inviter la productrice Sophie Réville à rejoindre notre enquête. Créatrice et productrice des fameux Petits Meurtres d'Agatha Christie, série télé au succès phénoménal, elle a su réinventer l'univers avec brio pour notre plus grand plaisir.
Je suis pas de votre avis. Toutes les lettres sont signées différemment, mais chaque fois nous retrouvons les initiales A-N et onyme, c'est-à-dire anonyme.
Oh, coïncidence.
Probablement pas. C'est un mauvais calembour, mais qui cache un mystère assez troublant.
Ce serait de la folie, voyons.
Peut-être bien. Nous avons affaire sans doute à un fou.
J'y suis pour rien, moi, non plus.
C'est du chantage, tout simplement.
Vous n'allez même pas croire, c'est ça,
mensonge. Il a tout inventé, je vous dis.
Écoutez-moi.
Ça vous déplaît, cette histoire-là? Tenons, on se croirait en plein roman policier, j'adore ça, moi.
Oui, les romans policiers sont bons à lire, mais pas à vivre.
Oh, est-ce que ça peut être pot au feu, magistrat? Mais il m'amuse, votre onyme, même s'il est fou, même s'il a une idée derrière la tête. Tenez, je vais boire à sa santé.
Oui, bon, c'est peut-être ce qu'on pourrait faire de mieux.
Très bien, oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Mort. Il est mort. Mais il y a quelque chose dans son whisky?
Eh oui, sans doute, du cyanure, l'effet instantané.
Mais qui aurait mis du cyanure dans son verre?
Mais lui-même, parbleu.
Mais certainement, voyons.
Un suicide?
Mais
ce
oui.
Ce garçon était si gai, si insouciant, aimant la vie. Comment est-ce possible?
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Charmante soirée.
Le romancier le plus lu au monde est donc une romancière. Au hit parade des œuvres littéraires les mieux vendues, celle d'Agatha Christie caracole, juste après la Bible et le théâtre de Shakespeare. De tous ses romans, nous venons d'entendre un extrait du plus connu, sans doute. Il s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. C'est l'un des plus grands best-sellers de tous les temps. Les fans auront reconnu « Ils étaient 10 », ex « 10 petits nègres », un titre choquant, d'une autre époque, inventé par une femme née, de fait, sous le règne de la reine Victoria. La reine du crime voit le jour le 15 septembre 1890 à Torquay, une jolie station balnéaire du sud de l'Angleterre. Issue d'une famille aimante, aisée et cultivée, Agatha née Miller est la dernière de trois enfants. Son père est américain, sa mère anglaise. Contrairement à sa sœur et à son frère, Agatha n'ira pas à l'école. Ainsi en a décidé l'intense et fantasque Clarissa Miller, sa mère adorée, qui a aussi décrété qu'une enfant ne devrait pas être autorisée à lire avant l'âge de 8 ans. Ce serait meilleur pour ses yeux et pour son esprit. Une lubie ? De toute façon, la petite ne s'en laisse pas compter. Elle demande à regarder les ouvrages qu'on lui lit et apprend à lire seule. Elle n'a pas 5 ans. Clarissa est catastrophée. Et après ? En plus des histoires, celles qu'on lui raconte, celles qu'elle invente, Agatha aime les maths et la musique. de son propre aveu. Si elle n'était pas tombée dans la littérature policière, elle serait devenue mathématicienne de troisième ou quatrième ordre. La reine du crime est modeste, et ça n'est pas une blague. Toute jeune, déjà, elle pense qu'elle n'est vraiment bonne en rien. Sa timidité maladive n'arrange pas les choses. Sa difficulté à s'exprimer est légendaire. « Agatha est tellement lente !» s'exclament ses proches. « C'est dit sans acrimonie !» précise-t-elle. En attendant, elle en est persuadée. Elle est la lambine du troupeau. « 86 ans plus tard, à sa mort, le 12 janvier 1976, la lambine du troupeau n'a pas lambiné tant que ça. Elle a vendu 300 millions de livres de son vivant. Mort sur le Nil, le meurtre de Roger Ackroyd, le crime de l'Orient Express, où ils étaient 10, sont devenus des classiques. D'autres, moins célèbres, Témoins indésirables ou La Maison Biscornue, ont les faveurs de leur créatrice. Et puis, il y a les autres. Cinq petits cochons, Jeu de glace, Le couteau sur la nuque. Tous les autres, Le Vallon, Un meurtre est-il facile, leurs héros. Des dizaines d'autres. Avec Agatha Christie, c'est pratique, on a le choix. Chaque lecteur a son titre préféré, son texte relu mille fois, son roman refuge. Elle n'est pas appréciée par tous, loin s'en faut. Il n'empêche que le succès de La Reine du Crime semble ne jamais s'arrêter. En tout, on parle de plus de 2 milliards d'exemplaires vendus. Ses éditeurs eux-mêmes ne s'y retrouvent plus. Des 150 nouvelles aux 66 romans à énigmes, chaque nouvelle édition relance la machine, comme par magie. Et puis, l'écrivaine ne s'en tient pas là. Pas à un record près, la vieille Agatha. Elle est l'autrice la plus traduite de tous les temps, en 103 langues exactement. Lue dans le monde entier, Agatha Christie est aussi écoutée et jouée. Elle, qui depuis l'enfance aime passionnément le théâtre, elle écrit des pièces, tant pour la radio que pour la scène. L'une d'entre elles, La Souricière, va connaître un succès inouï, jamais égalé. Laissez-moi vous raconter son histoire. En 1947, quand on demande à la reine consort d'Angleterre, Queen Mary, ce qu'elle désire pour ses 80 ans, la femme du roi George V répond « Une nouvelle de son auteur favori. Vous devinez qui ?» La BBC commande alors à Agatha Christie, puisque c'est bien d'elle qu'il s'agit, une courte pièce radiophonique. « Three Blind Mice, trois souris aveugles » est diffusée le 26 mai 1947. L'autrice l'adapte ensuite en nouvelle, pour la presse, puis pour l'édition. Enfin, elle a l'idée d'étoffer l'intrigue pour en faire une vraie pièce de théâtre. Agatha est coutumière de ces petits arrangements littéraires. Elle sait, comme personne, donner de nouvelles formes à ses textes. Le 21 septembre 1952, la dramaturge met un point final à sa pièce qu'elle a rebaptisée « The Mousetrap », la souricière. Le 21 septembre, c'est aussi l'anniversaire de son unique petit-fils, son Matthew qu'elle aime tant. Cette année-là, il fête ses 9 ans. Quelle coïncidence ! En guise de cadeau d'anniversaire, Agatha offre au garçonnet les droits de sa pièce. La légende raconte que Matthew avait envie d'un vélo et qu'il aurait été affreusement déçu. C'est vrai qu'à 9 ans, quand on vous offre les droits d'une pièce de théâtre, vous n'êtes pas forcément emballé. Et de toute façon, ce que le petit ne pouvait pas savoir, c'est que des vélos ou des Legos ou des mécanos, il allait pouvoir s'en offrir. Un garage entier. En 1958, 6 ans après sa création, la pièce totalise le plus grand nombre de représentations consécutives dans toute l'histoire du théâtre anglais. En 1962, pour le 10e anniversaire de la pièce, qui a continué à être joué sans relâche, une super soirée est donnée dans un palace londonien, le Savoy. Dans le grand hôtel privatisé pour l'occasion, un gâteau en forme de piège à souris géant est prévu. 1000 invités sont attendus. Peter Saunders, producteur et ami d'Agatha, a demandé à celle-ci d'arriver une demi-heure avant la fête pour passer ce qu'elle appelle l'épreuve des photos. L'expression révèle bien l'aversion de Christie pour les mondanités. La dramaturge n'est plus un perdreau de l'année pourtant, mais sa timidité n'est pas guérie. Elle se présente mal à l'aise au salon réservé pour les prises de vue. « Il est trop tôt pour entrer, madame. Attendez 20 minutes. » Agatha se retire, silencieuse et mortifiée, incapable de rectifier que c'est elle la reine de la soirée. Elle n'y peut rien. Jamais elle ne se sentira véritablement écrivain. Elle erre dans les couloirs du Savoy jusqu'à ce que Peter Saunders la croise, ébahi et bientôt hilar. On n'est qu'en 1962, les records vont continuer de tomber. Pour faire vite, la pièce est jouée sans relâche depuis sa création en 1952 jusqu'à la pandémie en mars 2020. 68 ans de représentation ininterrompue. Le jeune Matthew, qui n'est plus tant que ça, ne doit plus soupirer après son vélo. Et puis, au fait, depuis mai 2021, c'est reparti. Au St. Martin's Theatre, les représentations de la souricière ont repris.
Must be quite old, and yet he skips about as though he were quite young.
You'll be wanting more wood.
Rideau. Revenons au roman de Christie. C'est Wooden It, comme les appellent les Anglais. Who has done it? Qui a fait le coup? Les détectives inventés par Christie, Miss Marple et surtout Hercule Poirot, sont plus que des stars. Poirot se vante d'être le meilleur détective du monde. En tout cas, il est le plus connu. Et si la méthode de Jane Marple est différente, question petite cellule grise, la vieille dame n'a rien à lui envier. Pourtant vieux jeu, et même vieux tout court, bourré de défauts, il semble inoxydable. Je leur consacrerai le dernier épisode de cette série. Un épisode rien que pour eux deux, ils le méritent. Parce que le résultat est là. Les comédiens se succèdent, et au cinéma, les adaptations pleuvent, dans le monde entier. Idem pour le petit écran. Hier, aujourd'hui, demain, rien qu'au Royaume-Uni, chaque soir, il y a un Agatha Christie, quelque part, sur une chaîne de télévision. « Que ferions-nous sur Terre sans elle ?» s'écrit Vita Sackville-West, jardinière et romancière, contemporaine de la reine du crime. Agatha Christie est un mythe. Mais quel est le secret de cette blondinette de 4 ans qui, affalée dans un fauteuil trop large pour elle, boude ostensiblement sur son portrait peint par Douglas Conan en 1894. Où l'enfant timide et silencieuse est-elle allée puiser son inspiration? Comment Agatha Miller est-elle devenue Dame Christie, écrivaine au succès diabolique?
In my
Thank you. C'était Billie Holiday avec Solitude. Vous êtes bien sur France Inter dans un thé avec Agatha Christie. Aujourd'hui, comment Agatha devient Christie. Nous sommes à Torquay, au début des années 10. Agatha a 20 ans. Avec sa sœur Margaret, de 11 ans son aînée, elles discutent avec ferveur d'une intrigue qu'elles viennent de lire. C'est Margaret, surnommée Madge, qui a autrefois initié sa petite sœur au roman policier. Les deux jeunes femmes se délectent de commenter les ficelles imaginées par l'auteur pour emberlificoter ses lecteurs. Soudain, Agatha déclare vouloir s'y coller. Pourquoi n'écrirait-elle pas à son tour un roman à énigmes ?
Tout à mon enthousiasme, j'affirmais vouloir essayer. « Je ne crois pas que tu pourrais y arriver, » dit Madge. « C'est très difficile. J'ai déjà pas mal creusé la question. J'aimerais quand même essayer. Eh bien, je te fiche mon billet que tu n'y arriveras pas. » La discussion en resta là. Ce ne fut pas un véritable pari. Les termes n'en furent jamais définis. Mais les mots avaient été prononcés. À partir de ce moment, je fus habitée par la détermination d'écrire un roman policier. Cela n'alla pas plus loin, je ne commençais ni à rédiger ni même à y réfléchir. Cependant, la graine avait été semée. Au fond de mon esprit, là où l'histoire de mes livres futurs prend sa place, bien avant que la germination ne se fasse, l'idée était implantée. Un jour, j'écrirai un roman policier.
À l'époque du défi, Madge est mariée et elle a quitté la maison depuis bientôt 10 ans. Mais elle conserve son ascendant de toujours sur sa cadette. Il faut dire qu'elle est fascinante, Madge. Elle se déguise, raconte 1000 histoires, invente des farces, fait rire toute la maisonnée. Elle est dotée d'un charme fou. Agatha se montrera éternellement admirative.
Ma sœur était la femme la plus infatigable que j'ai connue. Une sorte de dynamo humaine. Et elle faisait partie de ces gens qui réussissent pratiquement tout ce qu'ils entreprennent.
Quand Madge décrète que pour ce qui serait d'écrire un roman policier, elle a déjà pas mal creusé la question, elle dit sûrement vrai. Avant son mariage, l'aînée des Miller a écrit des nouvelles, dont certaines sont parues dans le célèbre magazine Vanity Fair. À l'époque, c'est une consécration, et leur père Frédéric est fier de sa fille aînée. Il n'en faut pas plus pour créer la légende. Au départ, la plume de la famille, l'écrivain en herbe, c'est elle, Margaret, pas Agatha. L'affaire a son importance, j'y reviendrai. Cela n'empêche pas les deux sœurs de s'adorer, passionnément, à la folie, plus que tout. Elles s'aimeront et s'entraideront toute leur vie. L'écrivaine l'a dit et écrit. Son enfance est heureuse, pittoresque et confortable. Elle-même est dotée d'un joyeux caractère. Tout n'est pas rose pourtant. À la mort de son père, quand elle n'a que 11 ans, Agatha se retrouve seule avec sa mère, Clarissa Miller. Sa sœur Madge, mariée, son frère Monty, parti en Afrique, lui aussi j'aurai l'occasion de l'évoquer, la jeune Agatha noue une relation exclusive avec Clarissa. Mère et fille entament des voyages au long cours, ce qui renforce encore leur amour fusionnel. Puis Mrs. Miller tombe malade. Agatha, inquiète, est tellement aux petits soins qu'à 15 ans, elle fait des crises d'angoisse qui la tiennent éveillée une bonne partie de la nuit. Mais à Paris, où avec sa mère, elle passe plus d'un an, la jeune fille fait son entrée dans le monde. Elle s'amuse, nous aussi.
Je rencontrais beaucoup de Français charmants, mais fort curieusement, je ne tombais amoureuse d'aucun d'entre eux. En revanche, je me pris de passion pour le réceptionniste de l'hôtel, Monsieur Stry. Long et mince comme un fil, il avait le cheveu filasse et une peau à boutons. Je ne vois vraiment pas ce que je pouvais lui trouver. Bien qu'il m'adressât à l'occasion un « bonjour, mademoiselle », quand je traversais le hall, je n'ai jamais eu le courage de lui parler. Il se prêtait en outre assez peu aux fantasmes. Je m'imaginais parfois le sauver de la peste en Indochine, mais il me fallait faire un gros effort pour que le film se déroule. Dans un dernier souffle, il murmurait « mademoiselle, je vous ai aimé comme un fou dès le premier regard ». Tout cela était bel et bon, mais lorsque je voyais le lendemain Monsieur Stry penché sur ses écritures derrière le bureau, il m'apparaissait hautement improbable qu'il pût jamais prononcer de telles paroles, même sur son lit de mort.
Retour en Angleterre. Au cours d'un bal à Exeter, tout près de Torquay, Agatha Miller rencontre Archibald Christie. Nous sommes en 1912, elle a 22 ans, lui 23. Engagé dans le Royal Flying Corps, le jeune pilote attend avec impatience d'être incorporé dans la nouvelle armée de l'air. Quand la Première Guerre mondiale éclate, il est immédiatement envoyé au front. À peine fiancé en cet été 1914, Archie et Agatha pensent qu'ils ne se reverront jamais. Les pilotes sont en première ligne et l'aviation allemande est réputée puissante. Agatha prend sur elle et ne reste pas à se tourner les pouces. Comme toujours, elle agit. Elle file rejoindre son détachement d'aide volontaire aux blessés. La voici infirmière à l'hôpital de Torquay. Les premiers blessés arrivent.
Beaucoup, parmi les dames plus âgées, ne s'étaient pratiquement jamais occupées de vrais malades. Et malgré leur compassion et leur bonne volonté, n'avaient pas compris que le travail de l'aide-soignante consiste surtout à passer les urinaux, les bassins, à savonner les alaises, à nettoyer le vomi, à supporter l'odeur des blessures suppurantes. Elles s'étaient sans doute imaginées qu'il s'agissait de remonter les oreillers, de susurrer des mots gentils dans l'oreille de nos braves poilus. Ces idéalistes abandonnèrent donc dardard leur tâche. Elles n'auraient jamais cru devoir faire un jour quelque chose comme ça, disaient-elles. Alors pour les remplacer, on appela des petites jeunes filles au cœur mieux accroché. L'exode des aides-soignantes les plus âgées fut accéléré par le fait que les premiers blessés arrivaient directement des tranchées, avec leurs pansements de fortune et des poux plein la tête. La plupart des dames de Torquay n'avaient jamais vu de poux de leur vie. C'était mon cas. Et la découverte de cette vermine causa à ces âmes sensibles un choc qu'elles ne purent supporter. Les plus jeunes, en revanche, acceptèrent cela sans sourciller. « J'ai fait toutes mes têtes », avions-nous l'habitude de nous dire gaiement au moment de la relève en brandissant notre peigne fin.
Le 24 décembre 1914, au cours d'une permission d'Archibald, Miss Agatha Miller devient Mrs. Agatha Christie. Les jeunes mariés passent 3 jours ensemble, mais Archibald repart au front. Et Agatha à son Red Cross Hospital. C'est là que, quelques mois plus tard, sa vie prend un tournant déterminant. En juin 1915, on lui propose de rejoindre un tout nouveau service, le laboratoire de pharmacie de l'hôpital. Dans ce petit labo, qui sera sa seconde maison pendant 2 ans, la future reine du crime acquiert sa connaissance des poisons. Elle y fait des rencontres aussi. Pour obtenir son certificat de préparatrice en pharmacie, elle suit un stage de formation chez un apothicaire à la main baladeuse, Mr. P. Il ne se sépare jamais d'un petit cube de poison, du curare, qu'il conserve au fond de sa poche parce que cela lui donne un sentiment de puissance. Romanesque ? 50 ans plus tard, Mr. P se retrouvera au cœur de l'intrigue du cheval pâle. Mais voilà, le travail au labo de pharmacie plaît nettement moins à Agatha Christie que celui d'infirmière. Comme elle s'ennuie ferme, elle repense au pari de Madge. Ses après-midi lui laissent du temps libre ? Elle commence à bâtir une intrigue. Ce premier texte achevé, Agatha l'envoie à 6 éditeurs, qui le refusent et le lui retournent illico. L'apprentie romancière a fait lire son texte à Archie. Lui ne l'a pas trouvé mauvais. Elle envoie le manuscrit à une 7e maison d'édition, The Bodley Head, puis elle l'oublie. 2 ans plus tard, la guerre est terminée. Archibald est rentré, le couple s'est installé à Londres, où Agatha a mis au monde leur fille unique, Rosalind. Elle a complètement oublié son manuscrit. Mais un jour de 1919, elle reçoit une lettre de The Bodley Head. Elle la lit d'abord sans comprendre. Puis elle se souvient. L'éditeur John Lane lui propose un rendez-vous. La mystérieuse affaire de Stiles paraît en 1920.
Cynthia Murdoch était une charmante jeune personne pleine de vie. Elle se laissa tomber sur la pelouse, je lui tendis l'assiette de sandwich et elle leva vers moi un visage souriant.
Asseyez-vous donc sur l'herbe, on y est tellement mieux.
Je m'exécutais de bonne grâce. Vous travaillez à Tanminster, n'est-ce pas, Miss Murdoch ?
Hélas, j'y rachète mes péchés.
Ils vous briment donc tellement ?
Ça, ils ne s'y risqueraient pas.
Une de mes cousines est aide-soignante et elle a une peur bleue des infirmières en chef.
Ça ne m'étonne pas. Si vous les voyez, Mr. Hastings, vous ne pouvez pas imaginer. Mais Dieu merci, je ne suis pas aide-soignante. Je travaille au laboratoire de l'hôpital.
Et combien de personnes avez-vous déjà empoisonnées ?
Bah, des centaines.
Incroyable prescience. Clin d'œil d'Agatha à celle qu'elle est sur le point de devenir. Parce que c'est parfaitement vrai, elle va en empoisonner des centaines de personnages. La prophétie, heureusement, n'est que littéraire. Agatha se prête au jeu de l'écriture. Encouragée par Archibald, elle écrit dans la foulée 4 livres, plutôt bien accueillis. Puis arrive 1926, une année compliquée. Côté pile, succès et polémique pour son roman « Le meurtre de Roger Ackroyd ». Arnaque pour les garants des règles du roman à énigmes, mais chef-d'œuvre formel pour beaucoup. Christie a 36 ans, elle devient célèbre. Mais elle n'a que faire de la gloire. Côté face, sa mère, Clarissa Miller, meurt. Et son mari Archibald s'éloigne d'elle. Le 3 décembre 1926, Agatha Christie disparaît. Missing, évaporée, Agatha. La disparition de la romancière en 1926 devient un événement mondial. La presse s'en empare et s'emballe. Dans notre thé avec Agatha Christie de demain, je reviendrai sur cette étrange évaporation. Pour l'instant, voici ce que je peux vous en dire. Après avoir mis l'Angleterre et le monde en émoi, Agatha Christie est retrouvée au bout de 11 jours dans un hôtel d'Harrogate, tout au nord du pays. Elle est mal en point, Archibald la trahit. Mais, à partir de là, Agatha s'affranchit. Elle part. Ou plutôt, elle s'offre de nouveaux départs, dans tous les sens du terme. Premier départ en 1926. Après avoir vainement tenté de rattraper le coup avec Archie, elle tire un trait définitif sur leur mariage. Elle consulte ses avocats, conclut le divorce et quitte définitivement le domicile conjugal et Archibald. De lui, elle ne gardera que le nom, Christie. Deuxième départ 2 ans plus tard. En 1928, sur un coup de tête, elle s'engouffre dans l'Orient Express, direction Bagdad, en Irak, toute seule. Elle qui rêvait du fameux train depuis toujours. Elle qui ne se croyait bonne en rien. Permettez-moi un petit retour en arrière. Agatha est une voyageuse née. Pour elle, partir loin n'est pas une nouveauté. Toute jeune, elle a découvert le monde en compagnie de ses parents. En 1922, Agatha se révèle une vraie aventurière. Archibald et elle partent faire le tour du monde. Ils confient la petite Rosalind à sa tante et à sa grand-mère et se lancent dans le Grand Tour, une mission proposée à Archie qui devra promouvoir l'Empire britannique autour de la Terre. Durant 10 mois, Agatha se montre infatigable. Elle pratique le surf en Afrique du Sud, puis à Hawaï. Sacrée première anglaise à tenir debout sur une planche, les photos attestent de son aisance. D'autant qu'elle est aussi pionnière dans un maillot de bain à la coupe quasi moderne, acheté sur place et dont elle est très fière. Modeuse subversive, Agatha ? Eh bien oui, car à l'époque, on est en 1922, ce une pièce moulant est jugé sacrément osé. L'aventure continue. En Australie, Mrs. Christie est autorisée à conduire une locomotive sur quelques kilomètres. Et dans la forêt canadienne, elle se balade en dog cart, une petite charrette à chiens. Parlons des chiens, justement. La romancière les adore. Dans une mémoire d'éléphant ou témoin muet, deux cabots sont même beaucoup plus futés que les policiers. Avec les chiens, Agatha se trouve des points communs. Et c'est là que son voyage à Bagdad, en 1928, marque une rupture, un nouveau départ. Voilà ce qu'elle se dit juste avant de monter dans l'Orient Express.
Je ne connaissais que trop mon tempérament de toutou. Les chiens ne vont pas se promener, à moins qu'on ne les y emmène. Allais-je toujours être comme ça ? J'espérais que non.
Effectivement, c'est non. Agatha le constate. Lors de son voyage en Irak, elle est parfaitement capable de prendre sa vie en main.
France Inter. Sonia Fertchak. Un thé avec Agatha Christie.
Au milieu des années 1920, troisième nouveau départ, financier cette fois. Agatha n'y connaissait rien quand elle avait signé son premier contrat. Mais quatre livres plus tard, elle n'est plus dans le même état d'esprit. Alors que The Bodley Head, sa première maison d'édition, lui propose d'annuler son ancien contrat au profit d'un nouveau plus avantageux, Christie refuse et se rebiffe. Pragmatique, elle n'en veut pas plus que ça à John Lane, son éditeur d'alors. Après tout, la bêtise, c'est elle qui l'a faite. Car
c'en est une que de ne pas chercher à connaître la valeur exacte de son travail et de ne pas lutter pour en obtenir la juste rémunération.
Mais ce qui est fait, elle n'a plus confiance. Elle se met en quête d'un agent et pousse la porte de l'agence Hugh Macy's.
Je fus reçue par un jeune homme au léger bégaiement qui s'appelait Edmund Cork. Loin de m'intimider, à dire vrai, je me sentis même tout à mon aise pour lui parler. Il se montra comme de juste atterré par mon ignorance et s'offrit à guider mes pas à l'avenir. Il m'indiqua le montant précis de ce que serait sa commission et évoqua la possibilité de droits de reproduction en feuilleton, de publication en Amérique, de droits d'adaptation dramatique et de toutes sortes de choses improbables, du moins à ce qu'il me semblait. Ce fut une démonstration de savoir fort impressionnante. Je plaçai mes affaires entre ses mains sans réserve et quittai son bureau soulagé. J'eus l'impression qu'un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Ainsi débuta une amitié de plus de 40 ans.
Edmund Cork trouve à Christie une nouvelle maison d'édition, William Collins & Sons. Aujourd'hui HarperCollins, l'éditeur légendaire et pour toujours celui de la romancière. Premier roman paru chez Collins, Le meurtre de Roger Ackroyd. Coup d'essai, coup de maître. Les articles fleurissent. Agatha est sacrée reine du crime. Elle se met à gagner beaucoup d'argent, ce qui fera dire au célèbre premier ministre anglais Winston Churchill qu'elle est la femme à qui le crime a le plus rapporté, depuis Lucrèce Borgia. Il faut rendre à Archibald Christie ce qui lui revient. Le premier mari d'Agatha a lui aussi contribué à faire d'elle l'écrivaine à succès qu'on connaît. En premier lieu, il l'a encouragée à écrire, de façon professionnelle. Alors qu'elle commençait à pas mal gagner sa vie avec ses livres, il a incité Agatha à s'acheter une voiture, une Maurice Collet, et il lui a appris à la conduire. Agatha mêlera l'angoisse de sa première sortie seule dans Londres et sa lenteur légendaire d'autrefois pour écrire une scène d'anthologie dans son roman Le Vallon.
Accablée, vaincue d'avance, elle s'installa au volant et actionna le démarreur. Une fois, deux fois...
Tu aurais plus de chance si tu mettais le contact.
Oh mon Dieu, que je suis bête! Elle lui jeta un coup d'œil inquiet. Si John commençait déjà à se fâcher.
Oh mon Dieu.
L'attention de Gerda fut provisoirement détournée. Elle arriva à un feu qui était au vert depuis un petit moment déjà. Pas de doute, il allait se mettre au rouge au moment où elle parviendrait à sa hauteur. Elle commença à ralentir. Toujours vert. John Christie oublia qu'il s'était promis de ne pas critiquer sa conduite.
Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes ?
J'aurais juré qu'il allait se mettre au... Elle accéléra. La voiture fit un petit bond en avant et le moteur cala juste après les feux, qui en profitèrent pour passer au rouge, déclenchant un concert de klaxons.
Tu es vraiment la pire conductrice que je connaisse.
J'ai toujours eu horreur des feux de signalisation. Je ne sais jamais quand ils vont se décider à passer du rouge au vert ou inversement. John lui coula un regard en coin et nota sa nervosité et son air malheureux.
Tout l'a fait paniquer.
Se dit-il en se demandant comment on pouvait vivre dans un état pareil. Au grand soulagement de Gerda, John gardait le silence. Elle conduisait mieux quand elle n'était pas distraite par la conversation. Finalement, se dit Gerda en attaquant la côte de Mersham Hill, le voyage ne se passait pas trop mal. John était toujours plongé dans ses pensées et il n'avait pas remarqué les grincements atroces de l'embrayage à la traversée de Croydon. Comme la voiture prenait de la vitesse, elle poussa l'optimisme jusqu'à passer en troisième. Immédiatement, le moteur s'essouffla et John sortit de sa torpeur.
Agatha affirme que des deux choses qui ont le plus marqué sa vie, la première a été sa Maurice Collet grise, dotée d'un capot comme un héron. Et la seconde ?
40 ans plus tard, ce fut le dîner avec la reine à Buckingham Palace.
Ah oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier ce dîner. Agatha m'en voudrait. En 1971, Elisabeth II l'anoblit. Mrs. Agatha Christie est faite dame de l'Empire britannique.
Quelle est votre méthode ? Me demande-t-on souvent. Au risque de décevoir, je n'ai pas vraiment de méthode.
Je reprends. Romancière et dramaturge à succès, intrépide voyageuse, femme d'affaires autodidacte, infirmière bénévole pendant les deux guerres mondiales, sans oublier son statut d'épouse, mère et divorcée, eh bien tout ça n'est pas assez pour Dame Christie. En 1930, elle se trouve deux nouvelles passions, l'archéologie et un charmant jeune homme. Au cours de son voyage en Irak de 1928, Agatha a fait la connaissance d'un couple d'archéologues, Catherine et Leonard Houlet. Deux ans plus tard, il l'invite à revenir les voir sur le site qu'il fouille, à Ur, fameuse ville de la Mésopotamie antique. La romancière saute sur l'occasion. À son arrivée, les Houlet confient à un jeune archéologue brillant, Max Malouan, le soin de lui faire visiter le camp. Il a 25 ans, Agatha 40. Lors d'un laborieux périple jusqu'à la forteresse abbasside d'Oukaïdir, l'un des sites archéologiques les plus importants d'Irak, Agatha et Max, encore loin d'être intimes, se baignent dans un lac du désert, vêtus de leur seul sous-vêtement. Non, Agatha n'est pas bégueule, et elle est stoïque. Le voyage a été épuisant. Agatha et Max se marient en Angleterre en septembre 1930. Mrs. Agatha Malouan rejoint l'équipe des archéologues, dont elle devient membre à part entière. Lors de ses séjours irakiens, le matin, elle écrit. L'après-midi, elle nettoie, dessine et photographie les vestiges, vieilles pierres et bris de poterie. Au passage, les fouilles et le Proche-Orient lui inspirent d'excellentes énigmes, dont Rendez-vous avec la mort, Meurtre en Mésopotamie et Mort sur le Nil. Pendant 55 ans, de 1920 à 1975, chaque année ou presque, Agatha publie un nouvel ouvrage. En décembre, avec la régularité d'un métronome, son éditeur en tire un slogan, fameux coup de pub, « A Christie for Christmas ». Un Agatha Christie pour Noël, ça tombe bien, c'est l'idée qu'a eue il y a bientôt 20 ans notre invitée, Sophie Réville, productrice et créatrice des Petits Meurtres d'Agatha Christie. À suivre après la musique.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie, cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis, marcher, courir, nous éreinte, là restons assis au milieu du labyrinthe, sans chercher d'issue. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte, on tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Nous écoutions Feu Chatterton avec le labyrinthe.
France Inter. Un thé avec Agatha Christie.
Bonjour Sophie Réville.
Bonjour.
Vous êtes la productrice et créatrice des Petits Meurtres d'Agatha Christie, série télé au succès incroyable, diffusée pendant près de 15 ans. Il y a eu 49 films, je crois. Pour commencer, Sophie Réville, est-ce que vous auriez un souvenir d'Agatha Christie que vous souhaiteriez nous faire partager ?
Bah écoutez, le premier que j'ai lu, qui s'appelait « Les dix petits nègres ». Alors évidemment, on n'utilise plus ce titre-là aujourd'hui, c'était quand j'avais 10 ans. Et c'est comme si un voile s'était déchiré. C'est-à-dire, j'étais dans le monde des bisounours avant, et tout d'un coup, j'ai découvert que le monde était noir, que tout le monde cachait sa véritable identité, que tout le monde avait des secrets, que la famille était un enfer, que les histoires d'amour, c'était souvent des histoires de trahison, de tromperie. Elle dézingue complètement la bourgeoisie. On a toujours cette image de la vieille dame qui boit son thé, très gentille. Alors c'est vrai qu'elle décrit un seul milieu, celui qu'elle connaît, mais c'est un milieu où l'argent est l'obsession, ils ont une morale en apparence, et puis ce sont de vrais hypocrites. Elle les tourne en ridicule, souvent. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai lu comme ça tous les livres, c'est qu'il y a beaucoup de personnages de jeunes filles, de jeunes femmes, auxquelles je me suis identifiée. Je dirais la plus flamboyante, c'est Frankie, dans Pourquoi pas Evans, qui mène une enquête toute seule.
Un peu avec Bobby, quand même.
Avec Bobby, mais c'est vrai, et il y a un côté comédie sentimentale. D'ailleurs, beaucoup d'hommes dans ces livres sont quand même assez lâches, sont des maris assez soumis. Et finalement, les seuls personnages qui s'en sortent, je trouve que c'est les jeunes.
Quand vous aviez dit que vous aviez découvert pendant l'enfance, est-ce que vous faites partie de ces gens pour qui Agatha Christie, c'était les premiers romans pour adultes, la littérature pour adultes par laquelle on commençait ?
Complètement. Donc 10 ans, c'était entre le CM2 et la 6e, je suis passée de la Bibliothèque Verte à Agatha Christie. Et vraiment, voilà, c'est les premiers romans. Elle a quand même créé des personnages tellement tordus. Enfin, on oublie, parce qu'on pense que c'est comme ça, des petits villages. Il y a quand même des parents monstrueux.
Monstrueux,
hein, le Noël d'Hercule Poirot. Il y a Rendez-vous avec la mort, avec cette espèce de mère obèse, comme une araignée,
affreuse,
qui détruit, qui les humilie sans arrêt. Il y a ce personnage que j'adore, qui s'appelle André Custe, dans ABC contre Poirot, qui est quand même une gueule cassée de la guerre de 14, qui a un bout d'obus dans le crâne, et qui est devenu vendeur de bas.
Ouais.
Il va à domicile, il ouvre sa valise, et il y a plein de bas en soie. Enfin, ça ne s'invente pas, quoi. Voilà, il y a un frère amoureux de sa sœur, dans la dernière énigme. Enfin, c'est extrêmement subversif, osé.
Oui, je suis d'accord, on ne le voit pas forcément. Alors, j'en viens à votre travail. Agatha avait inventé cette formule qu'on aurait pu faire nôtre, A Christie for Christmas, qui marquait en fait la sortie de son nouveau roman chaque année avant Noël. Et vous, vous avez eu en 2006 l'idée de un Agatha Christie pour Noël, il y a bientôt 20 ans. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'adapter Agatha Christie ?
Je savais qu'elle avait créé quand même des mécaniques diaboliques. Matthew Pritchard, le petit-fils d'Agatha Christie, il m'avait dit, si elle avait vécu aujourd'hui, elle aurait écrit des scénarios.
Ah, c'est sûr.
Et c'est vrai que, dans ses livres, il y a toujours un pitch de folie qui vous donne envie de plonger dans le livre. Il y a des rebondissements incroyables. Et il y a une fin, nous on appelle ça une fin waouh, c'est-à-dire qui vous fait tomber de votre chaise. Enfin, c'est comme ça que je pourrais décrire un excellent scénario.
Oui, et une écriture extrêmement oralisante, théâtrale. Elle était aussi grande dramaturge.
Tout à fait, parce qu'on parle des mécaniques de crime, mais il y a des histoires d'amour incroyables, folles, il y a des jalousies dans les familles, il y a des vengeances.
Alors justement, vous montrez toute la panoplie des qualités de l'œuvre d'Agatha Christie. Comment on s'attaque à une œuvre pareille ? Vous êtes allé voir donc Matthew Pritchard. Comment vous avez fait ? Par quel bout vous l'avez pris ?
Alors, nous, avec mon associé Denis Caron, on appelle ça le voyage à Londres. Donc, c'était l'hiver 2004. Sans doute par naïveté, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que pour moi, il n'était pas question d'adapter les livres avec Hercule Poirot, Miss Marple. On n'avait aucune légitimité. Pour ça, la BBC le faisait déjà très bien. On est les seuls à avoir obtenu ce droit d'adapter les livres en y mettant nos héros français. Et plus tard, on est aussi les seuls à avoir obtenu le droit de créer nos propres histoires d'après l'œuvre d'Agatha Christie. Parce qu'évidemment, bien qu'elle ait écrit 80 livres, ils sont pas tous de la même qualité. Alors cette rencontre, elle a été extraordinaire. Il faut que je parle un tout petit peu de Matthew Pritchard, qui est le petit-fils d'Agatha Christie, qui l'a très très bien connue, puisqu'il a passé toute son enfance avec elle, il l'adorait. C'est un personnage, Matthew Pritchard, un Anglais avec le visage très rouge. Quand il commence à rire, c'est tonitruant. Il nous a emmenés dans un pub, on a mangé un Welsh avec lui, et je lui ai raconté les personnages que je voulais mettre en scène. Et il a accepté dans un moment de folie, parce que l'arrière-petit-fils, donc son fils, m'a confié un jour, donc James Pritchard, que lui n'aurait jamais dit oui.
Ah, c'est dingue.
Mais finalement, ils étaient hyper contents, ils adorent la série. Et il nous a dit un jour, vous savez, j'adore Alice Avril parce que quand je la vois, elle me fait penser à ma grand-mère. Elle a le même côté audacieux, la joie de vivre, l'enthousiasme. Donc, sans l'avoir prévu, finalement, on a mis Agatha Christie comme personnage dans notre série.
Vous êtes bien sur France Inter. Nous partageons un thé avec Agatha Christie et Sophie Réville.
Êtes-vous certain de ce que vous faites, commissaire ?
Une lettre, c'est un peu léger, non, pour déterrer un corps.
Quel est le nom de votre parfum ?
Pardon ?
Tout est une question de nez. Je renifle le crime comme d'autres le vin. C'est curieux, vous ne dégagez aucune odeur.
Je ne le parfume pas.
C'est dommage.
Pourquoi ?
Je vous aurais peut-être rayé de la liste des suspects.
Ah ! Excusez-moi, je suis affreusement en retard.
Maman ?
Ben quoi, maman ? Oui, c'est moi. Et dire qu'il faut que je vienne dans un cimetière pour te voir. La prochaine fois, ce sera pour mon enterrement à moi.
Oh, tu ne crois tout de même pas que je serai là à ton enterrement ?
On ne sait jamais si tu es sérieux ou non.
Je suis toujours sérieux.
Alors, on vient d'entendre un extrait de Témoin muet, qui fait partie de la saison 2. Je suis bien contente que vous ayez choisi cet extrait, parce que moi, c'est un de mes épisodes préférés, avec Samuel Labarthe, le commissaire Swann Lawrence, et puis sa mère, qui est jouée par Françoise Fabian, qui est formidable. Je trouve que cet épisode de Témoin muet, il est assez effrayant, et je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez eu peur, vous, en lisant Agatha Christie ?
Oh, tellement ! Tellement. Alors moi, les diptyneques, ça m'a fait faire des cauchemars pendant des nuits. Bien sûr, il y a une atmosphère, ça c'est quelque chose qu'elle sait absolument créer, très pesante, très lourde. Et effectivement, oui, j'ai peur en la lisant.
Et alors, justement, on sent que vous avez ressenti ça. Je pense que ça se devine parce que vous avez gardé la noirceur dans Les Petits Meurtres et pourtant, vous l'avez tourner du côté de la comédie aussi. Est-ce que ce choix s'est fait d'entrée de jeu ou est-ce que, parce qu'elle avait beaucoup d'humour aussi, Agatha Christie ?
Tout à fait. Oui, d'entrée de jeu, moi j'avais envie que les héros soient des héros drôles. L'humour, il était dès la première saison. Donc l'humour, il vient des personnages d'enquêteurs. En fait, dans les histoires, on reste très premier degré, très drama, très polar. Et puis la comédie vient avec nos héros. Mais je dois dire, c'est un énorme travail d'adapter Agatha Christie pour des films d'une heure et demie. Parce que, d'abord, elle, la façon dont elle écrit ses romans, c'est que le premier tiers du roman, elle installe ses personnages, elle installe le cadre, l'atmosphère. Pour nous, c'est pas possible. Il faut que le film démarre par le meurtre. Donc déjà, premier problème. Deuxième problème, quand vous les décortiquez pour les mettre à l'image, pour les mettre en scène, les plans des meurtriers ne tiennent pas debout. Mais sérieusement, on s'en rend absolument pas compte quand on lit.
Ah, c'est génial.
Les horaires, les objets. Enfin, quand vous essayez de dire, tu prends ça, tu fais ça. Là, t'as 2 minutes pour courir en dehors de la maison. Donc, on a crédibilisé, j'espère qu'elle nous en veut pas trop, pas mal de plans de crime. Hein, voilà. Puis après, elle est pas très forte pour décrire les univers. C'est pas son truc. Tout se passe toujours dans le petit village anglais. Donc, nous, on avait envie d'emmener les gens en voyage. Un seul exemple, l'affaire Protero, qui est typique du petit village anglais, qui se passe dans un presbytère. Mais nous, en gardant l'histoire, on l'a mis dans une agence de pub hyper hype des années 60 à la Mad Men.
Complètement, ça marche
voilà,
très bien.
Donc c'était des grosses adaptations, mais je dois dire qu'on a eu une liberté totale. Ils étaient tellement fans de la série, Matthew Pritchard et James Pritchard, qu'ils nous ont laissé. On a quand même fait une comédie musicale pour le dernier épisode de la saison 2 des années 60, qui était une histoire totalement inventée. On a fait un épisode de Noël, qui se passait sur un marché de Noël, où le Père Noël était assassiné. Et là aussi, c'était une histoire qu'on avait totalement inventée, qui venait pas d'un livre. Hein. Par exemple, Rendez-vous avec la mort, qui est un de ces romans fétiches qui se passe, vous savez, à Jérusalem, à Petra.
Avec cette mère terrible dont on parlait.
Eh bien, il n'est pas question d'aller à Petra. On l'a transposé dans une famille qui tenait un hôtel dans le nord de la France. Et ça les a jamais choqués.
Et alors, est-ce que vous êtes plutôt Marple ou Poirot ?
Ah, moi, je suis Poirot. Miss Marple, elle m'agace un tout petit peu. Elle est un peu... elle radote. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les Marple, mais c'est faux, parce qu'il y a d'excellentes histoires dans Marple, sont un peu plus lents. C'est peut-être le rythme qu'elle insuffle aux histoires.
Comment expliquez-vous qu'on la lise encore aujourd'hui, à votre avis ?
Les défauts, les faiblesses humaines qu'elle décrit, elles sont universelles, elles sont intemporelles. C'est le romanesque, elle a quand même inventé le fameux Who's Done It. Le Who's Done It, c'est quoi ? C'est le Cluedo, hein, c'est-à-dire elle vous met 10 personnages devant les yeux et elle vous dit, à vous de jouer. Donc le spectateur est totalement actif pendant qu'il regarde un Agatha Christie, un petit meurtre. Et en ça, pour moi, le cinéaste qui lui correspond le mieux, c'est Hitchcock. Et nous, dans la direction de filmage, la direction de la musique, on s'est beaucoup inspiré d'Hitchcock pour les petits meurtres.
Comment vous la voyez-vous ? Pour vous, c'est qui, Agatha ?
Moi, je la vois comme une femme, d'abord, très drôle. Ça, c'est les récits que m'en a fait Matthew Pritchard.
Hein. Et qu'on sent dans l'autobiographie.
Tout à fait. Très drôle, avec un grain de folie quand même. Parce que d'abord, pour inventer tous ces personnages. Ensuite, pour mettre en scène sa disparition, comme elle l'a fait quand elle a appris que son mari la trompait. C'est quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer. Une femme en plus, une bosseuse de folie. Elle écrivait 3 romans par an.
Oui, elle a écrit jusqu'à 3 romans par an. Plus les pièces, plus les adaptations.
Plus les pièces.
Merci beaucoup Sophie Réville, vous nous donnez très envie et de relire et de re-regarder Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Je rappelle que vous avez produit le film de Romane Boringer qui est actuellement au cinéma. Dites-lui que je l'aime. Et je crois savoir que les collègues du Masque et la Plume en ont fait leur coup de cœur absolu et unanime.
Merci beaucoup.
C'est la fin de notre premier épisode d'Un thé avec Agatha Christie. Avec les voix de Perrine Marillier, Catherine Pietri et Frédéric Constant. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Charles de Cilia à la réalisation, à la technique Tila Iravout et Anne-Laure Cochet. Programmation musicale Djoubaka, Emmanuel Lucioni à Lina pour la documentation et Marius Serriès, assistant de production. Merci à tous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 16h sur France Inter. Notre deuxième épisode d'Un thé avec Agatha Christie sera intitulé « Double jeu ». Nous parlerons dissimulation, illusion et usurpation d'identité. Nous rentrerons dans le vif du sujet.